RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
le meilleur des grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
En fait, c'est dans le cadre de, toujours pareil, de l'examen budgétaire, et c'est passé par le Sénat. Et le Sénat veut durcir la lutte contre la fraude aux allocations et en fait donner à France Travail les moyens de vérifier si les allocataires sont bel et bien sur leur lieu de résidence ou si ils ont pris quelques jours de vacances.
Et pour cela, il faudrait permettre à France Travail de consulter les relevés d'appels auprès des opérateurs de téléphonie ou encore d'interroger le fichier des compagnies aériennes pour savoir si oui ou non ceux qui sont censés rester en France et chercher un boulot n'en profitent pas pour partir voyager, en vacances, etc. Alors, est-ce que c'est une atteinte à la vie privée? Est-ce que ça va trop loin? Ou au contraire, on a un système qui est plutôt généreux, entre guillemets, qui est d'ailleurs plus généreux que ce que mettent en place nos voisins en termes d'indemnisation de chômage? Est-ce que dans ce cas-là, il faut mieux contrôler parce qu'il y a forcément de la fraude, des abus, et qu'il faut que France Travail puisse faire son boulot?
32-16 pour le dire aux grandes gueules. Emmanuel, toi qui as dirigé des entreprises.
Oui. Alors, les deux, en général.
Généralement, donc. Voilà.
Parce que, effectivement, il n'y a pas lieu d'être choqué de contrôles supplémentaires, qui sont le pendant d'une générosité des allocataires, vis-à-vis des allocataires. Mais par contre, dans ce que tu viens dégrainer, là, ça pose évidemment problème d'avoir accès au relevé téléphonique ou d'avoir accès aux compagnies aériennes, ça paraît extravagant. On est dans une idée.
Comment tu veux contrôler?
Pas un extrême à l'autre. Ben, il faut contrôler par tous les moyens sérieux et raisonnables. Mais on peut pas faire de. C'est pas la.
Ça va trop loin.
C'est pas le FBI quand même là.
Mourad.
Je suis assez d'accord. Et puis en plus, je pense que pour ceux qui cherchent du travail, c'est pas la situation la plus confortable. Si en plus ils se disent on est mis un peu sur le rang de la société, parce que nous on a le droit de fouiller dans notre vie privée quasiment, ce qu'on n'a pas le droit pour les autres. C'est-à-dire le jour où il va trouver du boulot, il dit ça y est, je redeviens un citoyen normal. Alors il redevient économiquement, mais il redevient aussi, il doit l'être tout le temps. Donc oui, je suis assez contre ça. Je pense qu'il y a d'autres moyens aujourd'hui de contrôler que s'immiscer dans la vie privée, parce que le téléphone, ça s'arrêtera où? Puis excusez-moi. On peut commencer par les chômeurs, ensuite on va dire par ceux qu'on soupçonne qui travaillent au noir, puis après on va commencer par ceux qu'on soupçonne qui
déclarent pas tout. C'est la collectivité qui paye, hein, c'est Nicolas qui paye quand même.
Oui,
toi-même, tu nous avais raconté des employés que tu pensais être en arrêt maladie ou
j'ai
autre.
J'ai eu ça,
et,
oui.
Et tu as eu ça en tant que patron et tu travaillais à l'extérieur.
Je me suis pas senti le droit d'aller fouiller dans leur vie privée. Moi, je les ai croisés par hasard, quoi, je veux dire. Mais non, je trouve que... Et puis bon, ça donne une image... Sur les millions de chômeurs qu'on a, je veux dire, l'énorme majorité sont des gens qui cherchent du travail. Et là, une fois de plus, on donne l'image d'une minorité que va devoir payer la majorité. C'est ça qui me gêne. Voilà, parce que nous, on va se dire, ah ben, les chômeurs, c'est les mecs qui prennent l'avion, qui prennent les vacances et tout.
Non, en plus, c'est pas du tout la mission des employés de France Rail, qui souvent sont très cordiaux et très, très efficaces. C'est pas leur job de jouer les détectives privés, hein, quand même.
Joël.
On n'est pas bien sous la Stasi, là? On est bien, non? Si. On est bien, là. Ça, on se transforme tranquillement en inquisiteur.
Il faut se préparer à l'invasion russe, hein.
Enfin, je suis désolée, à quelle heure? Parce que j'ai eu le malheur de perdre mon emploi, ce qui est déjà une déception, un drame en soi, un drame familial. On vient en plus aller fouiller dans ma facture de téléphone.
C'est sûr que si la trucs, j'ai vécu un drame familial, j'ai vécu un drame, je me retrouve au chômage.
C'est un drame de se retrouver au chômage.
Il n'y a pas que des gens qui vivent des drames et qui se retrouvent au chômage.
On parle
des fraudeurs.
On parle du cadre supérieur qui dit je vais me mettre au chômage, de toute façon je retrouve du boulot. Ou en fait, des types qui profitent du système.
Il y a la fraude aussi. Il y a une vraie fraude.
D'ailleurs, s'il prend 6 000 euros par mois, il peut.
Une vraie fraude.
Eh bien, qu'on soit un peu plus, sérieux dans le contrôle, parce que c'est de l'argent public, parce qu'en même temps, on peut pas, écoute, t'es la première à dire, on est endetté, on gère pas les déficits, on dépense plus d'argent. Ça, c'est des dépenses parfois inutiles.
Mais vois-tu, premièrement,
il faut plutôt aider les gens qui en ont vraiment besoin.
Il y a quelques semaines, on nous annonçait qu'on savait pas exactement ce qu'on faisait des aides aux entreprises. D'accord? Donc, d'un côté, en fait, on dilapide. on dilapide, parce qu'en fait, il faut soutenir l'emploi, etc. Donc, on donne à tout va, etc. Et puis, on sait pas vraiment ce qu'on en fait. Est-ce que ça marche bien? Non, on sait pas exactement. Et de l'autre côté, quand toi, en tant que salarié, oui, tu vis un drame, parce que perdre son emploi, c'est un drame.
C'est pas ces gens-là qu'on traque, c'est pas les gens qui sont dans un drame.
Il faudrait aller te fliquer.
C'est les fraudeurs.
Deuxième chose qui me pose problème, cette fuite de données. L'URSSAF, la semaine dernière, ou je ne sais plus, en début de semaine, a déclaré qu'elle avait fait fuiter les données, et d'ailleurs c'était le page emploi il me semble, donc avait fait fuiter des millions de données. C'est pas un problème ça? C'est pas un problème? Bah, oui. Moi je te dis, il y a 2 ans, j'ai reçu un courrier des impôts d'Orléans, donc je suis pas du tout rattachée à Orléans, qui m'informait que mon compte, je sais pas quoi, ImpôtGouv, avait été consulté. Ils avaient attrapé un de leurs agents qu'ils avaient mis à pied, etc. Et que je devais bien vérifier s'il n'y avait pas eu de souci de mon côté, etc. Machin. Excusez-moi, j'ai pété un câble. Je les ai appelés.
C'était un spam.
Je dis, comment ça se fait? Elle m'a dit, mais on est vraiment désolé. On a vraiment fait ça. Il a été mis à pied. On voudrait juste que vous vérifiez que vous n'avez pas de problème de prélèvement sur vos comptes ou etc. Donc. Il y a un problème quand même dans l'administration. Donc moi je suis pas hyper rassurée que tout d'un coup ils aillent piquer des trucs par-ci par-là et pour aller nous espionner. Moi c'est non.
Joël, toi qui souvent à dire c'est Nicolas qui paye.
Oui.
La fraude sociale c'est 13 milliards. La fraude sociale.
Oui.
13 milliards. Nicolas qui paye, c'est pas Nicolas qui paye.
Ah bon. Bah si.
Ouais. Vous me faites penser. Bah,
c'est Mourad.
Vous me faites penser à Brigitte Macron qui est une femme admirable et pour qui j'ai beaucoup de respect.
Ah oui. On l'a souvent entendu d'ailleurs.
Et que j'ai non, je l'ai rencontrée et je trouve que c'est une femme admirable. Mais que j'ai vu dans une conversation où j'étais pas du tout d'accord avec elle, où elle dit, on a de la chance dans ce pays d'avoir tous les soins gratuits. J'ai envie de vous dire, le chômage, il est pas gratuit. Les soins, ils sont pas gratuits. Les gens, c'est un dû parce
mais non,
que vous
c'est
avez
pas
cotisé.
Un dû. Mais non.
Parce que vous avez cotisé
mais
pour
non.
obtenir des soins gratuits.
Mais non.
Et vous avez cotisé au chômage. Et vous récupérez de l'argent.
Mais non.
Que votre employeur vous
non,
a pris.
Mais non.
Et puis c'est tout.
Mais
non. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Il y a rien de gratuit. Voilà.
Si, parce que je suis désolé, il y a effectivement ceux qui donnent plus qu'ils ne reçoivent. Mais majoritairement, en France, et je suis désolé, hein, c'est un sujet tabou, mais les Français reçoivent plus qu'ils ne donnent. Ben oui, quand l'impôt sur le revenu, par exemple, est payé à 70% par 10% des Français, ça veut dire que finalement, ces 10% des Français, effectivement, payent plus qu'ils ne reçoivent, mais les autres, ils reçoivent plus qu'ils ne donnent. Donc l'idée de dire, alors, j'y ai droit parce que j'ai cotisé,
c'est 10% des Français dont tu parles, je pense que j'en fais partie,
oui.
Et je peux te garantir aussi
partout,
que...
Là,
que le fait de donner plus qu'on reçoit, c'est le présent. On ne sait pas de quoi demain est fait.
Exactement.
On ne sait pas de quoi demain est fait, c'est de la prévention. Par contre, pour les autres, je pense qu'ils n'ont pas conscience et on ne calcule pas vraiment tout ce qu'ils donnent. Parce que si tu calcules ce qu'ils donnent à travers leur salaire, les charges salariales, les charges patronales, à travers leurs impôts, directs et indirects, à travers la consommation, à travers la TVA, je suis pas sûr qu'on inverse pas les mathématiques.
Bah, si, parce que dans ce cas-là, on serait pas en déficit.
Si on est en déficit, c'est parce qu'on claque de l'argent par les fenêtres.
C'est parce qu'on est très généreux socialement.
Attends, je voudrais qu'on écoute Grégory.
France,
hein. Grégory va intervenir dans notre discussion.
On a un modèle que personne ne nous a copié.
Grégory de Haute-Garonne, bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Merci de m'accueillir.
Bonjour. Je vous en prie, allez-y.
Alors écoutez, moi je suis un intermittent du spectacle depuis 20 ans, donc je bénéficie de ce régime depuis 20 ans sans interruption. J'avais envie de partager avec vous juste quelques anecdotes un peu de mon métier. J'ai l'impression qu'ils font une nouvelle proposition en proposant d'aller consulter les données personnelles des allocataires, sauf que c'est des choses qui sont déjà un petit peu faites. Donc les allocations en fait sont des droits que l'on perçoit, et en contrepartie c'est vrai que ce que m'expliquait un des conseillers lors de mes renouvellements, c'était que en contrepartie on a des devoirs, c'est-à-dire que les allocations sont des aides au retour à l'emploi. Ça signifie qu'on est censé chercher du travail lorsqu'on touche des aides au retour à l'emploi. Donc c'est vrai qu'il faut, nous dans le cas de notre profession, il faut qu'on soit capable de montrer qu'on... Alors moi, dans le cas de mon métier, de m'entraîner, de rester un peu en forme, donc il faut que je sois capable de présenter des factures de salle de sport, de salle de yoga, etc. Ou que je vais passer des auditions ou des castings, donc il faut que je puisse montrer patte blanche, des mailles, etc. Les conseillers ont la possibilité d'aller consulter effectivement les données personnelles des allocataires. Je prends un exemple d'un ami qui était parti en vacances et qui avait posté ses photos sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et c'est vrai qu'il a eu un petit coup de fil de la part de son conseiller pour savoir qu'est-ce qu'il faisait à cette période, puisque effectivement les photos à la plage
Oui. Après, intermittent du spectacle, c'est un régime particulier. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'intermittents du spectacle qui, une fois qu'ils ont fait leurs heures, ils cherchent plus du travail, ils cherchent du black. Donc, parce qu'ils sont systématiquement indemnisés par les assurances chômage. Ils ont un quota d'heures à faire. Une fois que c'est fait, ils se disent, je touche mon assurance chômage et je prends un peu d'argent à côté.
Alors, effectivement, oui, il y a la chasse à ces intermittents-là. En fait, pas dans mon milieu, mais effectivement, il y a plusieurs types d'intermittents du spectacle. On a les intermittents ou les
clairs. Ah, je ne vous ai pas accusé à vous, je ne me serais pas permis.
Ah oui, bien sûr, mais en réalité, on a plusieurs employeurs. C'est pour ça qu'on est intermittent du spectacle. Moi, pour ma part, j'ai 5-6 employeurs différents. Mais il y a certains employeurs qui embauchent à l'année, en fait, certains intermittents et qui ne déclarent pas la totalité du temps de travail. Ça, c'est un autre débat, c'est une autre histoire.
Sincèrement,
c'est le régime d'une caisse déficitaire.
Le régime de l'intermittence, il est formidable, il est unique au monde. On est le seul pays à faire ça.
Personne nous le copie,
il coûte plus d'un milliard d'euros. C'est peut-être la fierté française de faire ça parce que ça soutient nos artistes. Mais, pardon, on peut pas partir de ce régime-là et d'en faire un exemple parce que Grégory, c'est un régime qui coûte énormément.
Merci d'avoir été avec nous, Grégory, qui nous appelait de Toulouse et qui nous a raconté l'anecdote de son ami qui s'est fait toper, rattraper par la patrouille parce qu'il était en vacances et il avait posté des photos sur les réseaux sociaux. France Travail, doit-il pouvoir accéder à vos données perso? Non, à quasiment 59-60%.
Tu se connais, là, il m'a dit que mon rétro.
Fais attention, non? Tu te crois, connard? C'est conduire ou quoi? Pauvre con!
Pardon, monsieur, je suis désolé.
Connard!
Et j'étais en train de discuter.
Mais tu te crois où, pauvre con?
J'ai un tout petit peu touché votre rétroviseur.
Connard!
C'est pas grave, vous en avez besoin, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi?
Eh ben, un pied tombe plus loin.
C'est la sécurité routière qui lance une grande campagne contre l'agressivité au volant. Priorité au respect, parce que jamais les Français ne se sont autant agressés pour des questions de route.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un an, jour pour jour, un jeune cycliste parisien avait été écrasé par un SUV après une altercation dans les rues de Paris. Et c'est justement cette triste date anniversaire que la sécurité routière a choisi pour lancer cette campagne pour dénoncer l'agressivité au volant. Voilà ce que dit la sécurité routière sur la route. Stress et anxiété peuvent se muer en colère, la colère parfois en comportement dangereux ou en insulte, et l'insulte parfois en agression physique. Et donc, il va falloir changer d'une façon collective nos comportements. La campagne invite donc chacun à respecter 5 engagements. S'engager pour que la vie l'emporte sur la violence, se mettre à la place de l'autre, être attentif à chacun, savoir qu'aucun déplacement n'est roi et utiliser son permis de sourire. Est-ce que ces flyers qui vont être distribués dans les grandes villes de France, des messages qui vont être diffusés sur les réseaux sociaux, vous pensez que ça peut faire changer les choses?
Est-ce qu'on n'a jamais eu autant de violence les uns envers les autres sur la route?
Alors, ce qui est nouveau, c'est que vous allez dans les hôpitaux, vous allez dans certaines administrations, vous allez à la SNCF, il y a des mots qui sont collés pour dire aux gens d'avoir du respect, de la civilité, que toute insulte, etc., sera punie par la loi, etc. Donc il y a effectivement une recrudescence d'incivilité, de gens qui s'emportent. Alors on peut donner plein d'explications, mais il n'empêche que c'est quand même nouveau. Avant, on allait dans une administration, on faisait la queue, on n'allait pas insulter la personne qui était à l'accueil, ou c'était, en tout cas, c'était pas un grand phénomène de société. Et évidemment, sur la route, c'est la même chose. C'est la même chose parce que lorsque parfois on peut avoir, touché quelqu'un, ou en tout cas aller un peu plus vite, le doubler, enfin pas faire les choses correctement, eh ben les gens ont peur parce qu'ils se demandent si la personne qui va sortir de sa voiture, elle va pas sortir une hache, un couteau, vous casser la figure, etc., etc.
Il n'y a pas que d'ailleurs que les automobilistes, parce que
les piétons, c'est pareil.
On voit des piétons mal se comporter, on voit des cyclistes mal se comporter, des scootéristes mal se comporter.
D'où mon illustration sur le fait que ce phénomène d'incivilité partout, des parents qui se pointent à l'école pour casser la figure à l'enseignant parce qu'ils sont pas contents de ceci ou cela, c'est un phénomène global.
Est-ce qu'on change ça à un coup de flyer, de campagne?
Je suis dubitatif. Ben justement, tu seras dubitatif dans 50 secondes, le temps d'écouter Frédéric qui est routier dans la Nièvre. Bonjour Frédéric.
Bonjour les GG, bonjour à tous.
Bonjour Frédéric.
Vous la voyez cette agressivité là, effectivement, ou pas?
Ah ben, c'est même plus de l'agressivité, là, c'est de la rage. Et il y en a, ils sont vraiment enragés. Mmh. C'est, ça fait peur. Alors bon, moi, je fais beaucoup de... je travaille en France, je travaille beaucoup aussi en Italie, en Espagne. Et nous, ce qu'on a... Enfin, moi, ce que je constate, c'est qu'en France, ça devient vraiment la jungle. C'est vraiment une jungle, hein, la route. Hein, entre les gens qui ne respectent pas le code de la route, les excès de vitesse, les dépassements par la droite, les clignotants qui sont pas mis, les demi-tours sur l'autoroute. Enfin, et puis les gens, bon, vous leur faites une petite remarque. Bon, moi, je suis pas un adepte du klaxon, mais bon, par exemple, une personne qui est au feu rouge, un petit coup de klaxon, mais de courtoisie pour dire, bah, le feu est vert, tu peux y aller. Bah, le gars, il descend, il prend sa barre à mine et il commence à venir vers moi. Les gens sont
carrément.
Ah bah les gens sont fous, les gens sont malades, c'est incroyable. Alors nous on conduit, moi ma conduite, je suis en hyper vigilance constamment, pas par rapport à ma conduite parce que je suis un professionnel, mais par rapport aux autres. Le danger c'est les autres, c'est pas nous. Même si que bon je vais pas faire de corporatisme, mais c'est sûr qu'il y a des routiers qui se comportent extrêmement mal au volant, hein. Ça fait peur. Hein. Français, étrangers, hein, tout le monde dans le même sac. Mais là, des fois on atteint des sommets, hein. C'est incroyable.
D'accord. Alors comment on fait pour changer ça,
Didier? Ben moi,
tu ne crois pas à la campagne.
Où je suis dubitatif, c'est de dire que une campagne de publicité avec des flyers, ça va changer l'âme de fond dans notre société, qu'est l'éducation et le respect, quoi. Enfin, qu'est le respect de l'autre qui passe par l'éducation sur trois générations, quoi. Hein. Parce que la rambarde, on l'a lâchée il y a trois générations sur le respect. Hein. Quand aujourd'hui, n'importe qui va taper dans la tête d'un policier parce qu'il reconnaît un policier en civil, à un moment donné, tout ça, c'est dans la même ligne droite, quoi. Hein. C'est le respect qui n'est plus enseigné au sein même de la cellule familiale dans l'éducation des jeunes. Et je pense qu'il faudra plusieurs années après un déclic que je ne connais pas encore pour arriver à contrecarrer ça. Donc l'histoire du flyer qui va régler tous les problèmes d'incivilité,
ça convainc un peu
que les
convaincus, ça.
Moi, ça me fait un peu marrer, quoi.
Hein. Estelle veut en parler avec nous après Frédéric, le routier de la Nièvre. Estelle en Haute-Marne. Bonjour Estelle.
Oui, bonjour Lélé.
Vous la constatez, cette violence, ce manque de respect au quotidien?
Oui, lundi encore, j'ai eu très très peur sur la route.
Pourquoi?
Bah en fait, il y a une personne, j'ai commencé à la doubler sur un morceau de 2x2 voies. Mmh. Et quand j'étais à son niveau, elle a accéléré en même temps que moi pour me bloquer jusqu'au bout de la 2 voies. Et à ce moment-là, j'ai dû piler. Je me suis rabattue derrière lui. Il a pilé devant moi. Il s'est mis à rouler à 30 km/h.
Ah oui, il vous a bloqué.
En faisant exprès de me bloquer. Et un peu plus loin, sur une autre portion de 2x2 voies, toujours le même véhicule, il roulait à 105 au lieu de 110, j'ai commencé à le doubler, et au moment où j'étais presque au moment de me rabattre, il s'est mis à accélérer pour me doubler comme un dingue, à vive allure, quoi.
C'est fou.
Sur la droite.
Et vous pensez qu'une la campagne de sensibilisation, ça peut aider, ou pensez qu'il y sera sensible, ou pas?
Malheureusement, des comportements comme ça, non, je ne pense pas.
Et vous en voyez régulièrement?
Oh oui. Ah c'est oui, des incivilités j'en vois à chaque fois que je vais sur la route, oui.
Pareil qu'aujourd'hui, ce qui revient le plus, c'est les coups de pied dans la portière, dans les rétroviseurs et les sur le capot, les insultes, mais vraiment pour un non. C'est-à-dire ne serait-ce que pas démarrer suffisamment rapidement au feu vert, ça te vaut aujourd'hui. Si on se fie à toutes les compilations des polices municipales et autres, ils disent les gens se tueraient aujourd'hui pour un feu vert, un feu rouge, une place de stationnement. François va en parler avec nous. Bonjour François.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce qui vous est arrivé, vous, François?
Eh ben moi, le 9 août dernier, en fait, j'ai été agressé par un automobiliste qui m'avait frôlé en me déplaçant. J'ai eu le malheur de lever le bras pour protester. Et il m'a attendu une centaine de mètres plus loin pour essayer de me dégommer une première fois. Il n'a pas réussi. La deuxième fois a été beaucoup plus réussi, puisque je suis en arrêt de travail maintenant depuis ce moment-là. J'ai eu des côtes fracturées, j'ai eu 2 opérations du rein.
Il vous a cassé la figure?
Oui.
Ah oui, ça a été grave.
Ah non, ce dont je voulais témoigner aujourd'hui, j'étais pas au courant de
Campagne.
Lancement de cette campagne, exactement. Et le souci, c'est que maintenant, ça fait 2 mois et demi, et le chauffard, il est toujours en liberté. Il a été entendu voilà, 2 mois plus tard.
Il n'a pas été puni pour l'instant.
Pas pour l'instant, pas à ma connaissance en tout cas. Les gendarmes l'ont entendu, ne lui ont pas retenu son permis apparemment. Non. Il est toujours en. Il peut.
Ça, je pense que. Vous voyez, c'est bien de faire des campagnes, mais si on ne sanctionne pas les gens qui se comportent mal, ça ne sert à rien.
François, c'est avec votre témoignage terrible. On va le mettre sur les réseaux sociaux. J'espère que vous rétablirez.
RMC,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
Comment est votre blanquette?
Pardon?
Les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité?
Oui.
Avec du veau?
Non, à base d'agneau, plutôt, je crois. Il y a du poulet aussi.
Il n'y a rien à base de veau avec des champignons, des pommes de terre.
Je sais pas. Au revoir, monsieur.
Une bande d'amis qui aiment chanter à table.
Ouais, c'est 117.
Les dimanches oui, après.
C'est ce que dit aujourd'hui une étude, c'est-à-dire que 28% de la nouvelle génération ne mange pas ou n'apprécie pas ou ne connaît pas certains plats qui sont pourtant des totems dans la gastronomie française.
C'est ce que nous dit notamment le magazine Le Point, avec un article très, très intéressant. Le bœuf bourguignon, le coq au vin, la ratatouille, la quiche lorraine, la blanquette de veau, eh bien, ce sont vraiment des incontournables de la gastronomie française. Eh bien, peut-être que ces plats sont voués à disparaître de nos assiettes parce qu'une nouvelle génération qui est beaucoup moins tentée d'aller vers ces plats-là. D'ailleurs, Jérôme Fourquet lui-même l'a analysé dans son livre La France sous nos yeux. La blanquette de veau montre que les amateurs de ce ragoût mijoté à la sauce blanche se font de moins en moins nombreux. Il suffit d'ailleurs de regarder les cartes des brasseries françaises. Il y a de moins en moins de tartares, de steak frites, mais il y a des burgers, par exemple. Maintenant, il n'y a pas une carte d'un resto sans ouais. son burger. Le kebab, le pokeball,
le tataki de thon.
Bref, tout sauf la gastronomie française. Est-ce que vous-même, vous cuisinez moins ces plats? Parce que c'est une question de temps. Léonore a raison de nous souffler que c'est une question de temps. Pour faire un bœuf bourguignon, une blanquette de veau, faut avoir un peu le temps.
Pour faire une bonne bouillabaisse.
Au-delà de la cuisine, moi j'aimerais quand même te dire qu'il y a plein de jeunes qui adorent encore
ces
plats.
J'ai
36 ans, j'aimerais donner un petit exemple personnel. Nous avons fait récemment l'enterrement de vie de garçon d'un ami qui m'est très cher. On a passé le week-end à manger andouillette, porcelé rôti pendant des heures.
Voilà.
Épaules d'agneau confites. Bref, on a la trentaine. On s'est régalé avec un cuistot qui est venu exprès pour nous tout le week-end. Et donc voilà, des trentenaires, on adore encore cette cuisine et on la fait, on l'aime, on veut la manger. Donc il y a un côté identitaire. Il y a un côté identitaire dans nous. On mange pas des burgers. Nous, on est français.
On mange des porcelets
rôtis pendant des heures tellement c'est bon.
Ça, c'est la France.
On mange de l'andouillette. C'est une cuisine qui est conviviale. Elle est bonne, elle est conviviale. C'est-à-dire que tu poses un plat comme ça sur la table, et là tout le monde se dit oh, on va passer un bon moment. Et tu mets une bouteille de vin en plus à côté, et là tu te dis allez les gars, on va se régaler. Ça me semble tellement évident. Au-delà de la cuisine en elle-même, c'est le moment qui accompagne ce genre de plat. Et donc quand on perd ça pour aller bouffer, j'adore les falafels, mais on va pas se faire une grosse fête autour de falafels, quoi. Tu vois.
Et Léonore, tu disais c'est une question de temps.
Alors, oui, c'est une question de temps parce que là tous les exemples que t'as donné, c'est des plats en sauce. Les plats en sauce, parce que toi tu fais pas ça. Là t'as dit les grillades, c'est pas pareil, c'est pas le même temps.
Les plats en sauce,
c'est plus long. En fait, moi je sais que j'ai été élevée par une mère qui cuisine énormément, et la technique c'est de faire la cuisine le week-end pour qu'après les plats tiennent. Donc tu fais ton plat, ça fait lundi, mardi. Ensuite la sauce devient une sauce de pâte. Ensuite, enfin il y a plein
d'ailleurs,
de façons de récupérer.
Meilleur, le beau brouillon est meilleur le lendemain.
Bien sûr, une majorité des plats en sauce sont toujours meilleurs réchauffés. Donc après l'idée c'est voilà, tu fais ton grand je sais pas le week-end, t'invites plein de copains, tu fais une daube ou un truc comme ça, et après voilà. On a la flemme, et je pense que c'est de notre faute à nous si les jeunes ils mangent pas ça. C'est parce que nous aussi on a la flemme. Alors on va manger des sushis, des machins, des trucs. C'est plus rapide, c'est très bon aussi. Donc en fait,
c'est pas plus rapide. Voilà.
Attends, on va vers le rapide maintenant.
Ma chapelle de carnaval, j'ai fait de la carbonade flamande pour 30 personnes.
Oh, ça c'est bon.
Tu fais des frites, tu fais de la carbonade flamande
c'est
dans un immense.
Au niveau des artères, c'est bien aussi.
La carbonade.
Bonne bière et avec modération.
Donc on fait encore des trucs mijotés et ça
brille. D'accord,
mais donc c'est pas compliqué.
Non, mais reconnais qu'on est.
T'as pas d'enfants.
Tous d'ailleurs.
Quand t'as des enfants, c'est long.
On a un peu la génération de la flemme, c'est plus simple d'aller se commander des sushis, d'aller manger un kebab, d'aller prendre un burger rapidement, et on voilà, c'est comme ça.
La pizza, c'est rapide.
Mais par rapport
à nos
grands-parents qui passaient du temps en cuisine, enfin surtout les grands-mères, parce que les grands-pères ils cuisinaient pas.
T'as vraiment, plein de
brasseries. Tu faisais des plats
que tu pouvais garder.
C'est ce que disait
Léonard, voilà, ouais.
Après,
jours,
ça revient à la mode, hein, quand même, hein, comme disait Antoine. Franchement, les bouillons, par exemple, à Paris, il y a de plus en plus de bouillons qui rouvrent. Et moi, je suis fan de Top Chef. Je salue Top Chef. Et ben, la dernière fois, c'était justement revisiter tous les, à chaque fois, ils revisitent les grands classiques. Évidemment que moi, personnellement, la blanquette de veau, je trouve ça fade et tout. Après, quand j'ai vu les jeunes ce qu'ils en faisaient, j'avais envie de bouffer ça.
Alors, on a Marie qui est avec nous, artisan boucher. Bonjour, Marie.
Bonjour
Marie, qu'est-ce que vous en dites vous Marie? Alors,
alors moi j'appelais surtout ben, pour réagir par rapport au kebab et au fast food.
Ouais.
Je trouve que c'est un peu dommage que en fait on ne sache plus la valeur des produits. Parce que moi j'ai un bon exemple. Nous on est donc boucher, charcutier, traiteur dans un tout petit village en Moselle. Et on fait un pâté lorrain qu'on met à peu près une semaine à faire. Entre la pâte feuilletée au beurre à outer Poitou, les temps d'attente, les tours de pâte, etc. Et la farce qu'on fait mariner, qu'on coupe au couteau, qu'on assaisonne avec des herbes fraîches. C'est vraiment un produit, un vrai produit charcutier.
Et c'est pas très cher.
Et alors qu'on vend, nous, au magasin, bon après on est très reculé et donc on a une cible qui, on le vend pratiquement, pas à prix coûtant, mais c'est vraiment notre produit d'appel, on le vend 6 euros et il fait entre 270 et 300 grammes.
6 euros
et vous arrivez à en vendre?
Ah mais on en vend plein. Donc bah, les gens qui viennent régulièrement, on a des gens qui viennent que pour ça.
Ah mais oui, par c'est contre, devenu autre spécialité.
Les gens qui viennent pour la première fois chez nous et qui voient les pâtés lorrains et qui les trouvent appétissants et qui nous demandent le prix, et on dit c'est 6 euros le pâté, ben ils sont refroidis. Enfin, bon. On voit, ils font une tête. Alors on leur dit...
Il y a une préparation derrière, il y a un savoir-faire.
Voilà, on leur explique, on essaye d'être assez pédagogue. Mais là, vous voyez, j'ai mangé un kebab là il y a 2 jours. Ça faisait des années que j'en avais pas mangé. Ça coûte 11 euros.
Et oui, effectivement. Ouais. Et Marie, si on veut venir discuter et déguster votre pâté lorrain, comment s'appelle votre traiteur?
Ça s'appelle Maison Brabant.
À Baudrecourt.
184 habitants.
Baudrecourt. La Maison Brabant. Passez déguster le pâté de lorrain de Marie. En
tout cas. Et vive la gastronomie française.
Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne.
Ah oui, c'est un drame d'ailleurs, il s'est suicidé
au pied d'un arbre.
Mais il faut réviser Nino Ferrer. Ouais. Il a génial, les bombes, Ferrer, un paquet de chefs-d'œuvre.
Oui, il a souvent été connu pour ses chansons rigolotes, parodiques, etc. Alors que c'était un vrai musicien qui a fait des magnifiques chansons de superbes albums. C'était quelqu'un assez torturé, dépressif, qui malheureusement s'est suicidé, mais c'était un grand de la chanson française.
Est-ce que le téléphone portable aujourd'hui est vraiment un parasite dans nos journées de travail? Oui, si l'on regarde cette étude précise sur la manière dont on l'utilise. En fait, on le regarde toutes les 2 minutes de 9h à 17h, ce qui pose un problème quand on est au boulot, en fait.
Oui, alors il y a les notifications sur... on est tous victimes de ça, hein, notifications tout le temps sur notre smartphone. On a du mal à ne pas les regarder. Même la nuit, parfois, certains sont capables de se réveiller pour regarder ce qu'ils viennent de recevoir comme message. Il y avait les mails aussi. Hein. Il y a une étude qui nous expliquait que chaque semaine, un travailleur gère en moyenne 175 mails, en plus quand on est dirigeant, et qu'à un moment donné, en fait, ça nuit à la concentration, à la mémoire, et de façon plus générale, à la productivité. Et ça pourrait expliquer aussi les problèmes de santé mentale. On parle beaucoup de santé mentale, mais peut-être le fait qu'on soit totalement devenu dépendant des notifications, de nos mails, de nos messages, à un moment donné, notre cerveau il suit plus, et peut-être que ça peut, ces gens peut-être un peu fragiles, etc., peut poser de gros problèmes. Alors, est-ce que vous-même, vous êtes accro aux notifications? Est-ce que vous avez du mal à vous dégager?
Parasite la journée.
En fait, oui, bien sûr, on est tous à la même enseigne, mais quand on en est conscient, il faut s'appliquer des règles. Par exemple, moi, je mets toujours mon téléphone en mode avion la nuit. Je laisse aucune notification venir, j'enlève le Wi-Fi. C'est la règle. Je considère que celui d'Yves suffit, donc s'il y a un problème urgent, et comme lui, il a 10 fois moins de notifications que moi, et qu'il est 10 fois moins sollicité que moi, parce qu'il n'est pas du tout sur les réseaux, donc c'est son téléphone qui sert de sécurité. Moi, j'éteins le mien, mais j'essaye de m'appliquer des règles. Je pose le téléphone. Il m'arrive maintenant de plus en plus souvent, et c'est là que je vois que mes règles sont efficaces, c'est que j'ai plus de batterie et que je m'en rende pas compte. Donc ça, c'est révélateur. Et souvent, maintenant, j'ai plus de batterie. Je suis au téléphone et je me suis même pas rendu compte que j'avais plus de batterie.
Ah oui.
Donc, je m'accorde donc, de plus en plus de plages.
Désintoxique.
Voilà, ouais. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Je fais autre chose.
Mourad.
Moi, j'ai une pathologie, je le reconnais, je suis malade. J'ai une pré-pathologie sur le portable. D'abord, je pense que le portable est... que les mauvaises nouvelles arrivent par le portable. Donc, je suis souvent avec mon téléphone pour vérifier qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Mais c'est une pathologie, je sais. Et j'ai une addiction, j'ai assis ici pendant 5 minutes, je ne sais pas où est mon téléphone portable, je vais très 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 mal. Quoi. C'est même un état que j'ai rarement connu d'angoisse, d'être coupé du monde. Voilà. Et je suis ce qu'on appelle une victime de cette nouvelle technologie qui est le téléphone portable. On s'en est passé pendant des années. Moi, je suis vieux, donc je connaissais l'ancien temps là, où il n'y avait pas de téléphone portable. Mais aujourd'hui,
Et si ton téléphone est déchargé, que tu n'as pas les moyens de le recharger
jamais. Ah bon. Non, je le recharge à partir de 85%.
Ah oui,
en dessous de 85%, pour moi, il est vide.
Ah oui.
Ouais. Mais non, je sais. Je vous dis que j'ai une pathologie. Je l'assume.
On a 275 interruptions par jour avec son portable. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce que dit cette étude, c'est qu'avant, quand tu parlais avec tes collègues de bureau, en fait, ça diminue quasiment d'un tiers les discussions entre collègues de bureau à cause du téléphone portable aujourd'hui, et que ça nuit à la créativité des équipes. Total. Aussi. Ah oui. Emmanuel De Villiers.
Alors, t'as pas le cerveau disponible. Être proche de son portable, c'est un facteur de performance et de professionnalisme. Moi, ce que j'ai pu réussir dans ma vie professionnelle, ça a été souvent lié à un suivi très rapide. Quand je m'occupais du Puy du Fou, par exemple, je me souviens d'émissions de télé qu'on a pu raccrocher, qui ont boosté ensuite la fréquentation, le développement du site, parce qu'il fallait répondre dans l'heure. Et si vous n'êtes pas connecté, vous pouvez pas réussir si vous n'êtes pas connecté. C'est un problème de professionnalisme. Les meilleurs collaborateurs cadres aussi doivent pouvoir être joints en permanence. Les gens qui répondent pas. Ah ben j'ai laissé, j'étais aux toilettes. Ça c'est pas possible.
Ah ouais.
Ou dans
elle
le temps,
dans
le portable était moins usité. Les gens arrivaient au bureau, ils fermaient leur portable. Non, tout ça c'est pas possible. Mais dans les entreprises,
pour
éviter
toi,
ça,
un cadre, on doit être joignable 24h/24.
Ah, 24h/24 peut-être pas.
Non mais
même le week-end. En dehors de la période vraiment nocturne, il doit. Moi j'ai travaillé avec des gens qui étaient. C'était un élément discriminant, c'est-à-dire que notamment dans les parcs. Je rends hommage à mon ami directeur opérationnel du Puy-du-Fou d'époque, Daniel Fert, était joignable en permanence, 7 jours sur 7, c'est évident. Il faut pouvoir répondre très vite, prendre les messages. Et il y a un autre élément, c'est que dans les entreprises, en fait, c'est au management d'éviter ça. C'est-à-dire que ça, le problème que Alain Marchal soulève, c'est pour les entreprises qui sont pas dirigées, les grandes entreprises dans les tours où il y a pas de patron, etc. Une vraie entreprise dirigée, ça doit être suivi avec une hiérarchie et jusqu'au salarié de base, on doit lui dire, écoute, ton téléphone, s'il y a une urgence, que ta belle-mère est malade ou je sais pas quoi, encore que la belle-mère, tu suis, mais si c'est pour avoir tes notifications Facebook, tu feras ça après.
Réunion,
et un dernier point pour les téléphones portables, moi, il y a une phobie que je pense beaucoup d'auditeurs partagent. Malgré le professionnalisme des compagnies de portables, c'est quand il faut changer de portable.
Ah, c'est
alors
terrible,
là, c'est épouvantable.
Il y a la phobie des endroits où il n'y a pas de réseau. Tu connais ça? Quand tu restes une heure ou deux dans un endroit où il n'y a pas de réseau et tu sors de l'endroit et tu dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé pendant une heure?
Il y a des déserts, je peux en témoigner, à deux heures de Paris. Ça passe pas. T'es dans un village, t'as pas de réseau. Mais ça, c'est un vrai scandale parce que en 2025, dans une France qui se veut moderne, dynamique, qui veut développer, le business, etc., et qui dit il faut repeupler les campagnes, pas de réseau.
Florence, vous parlez avec nous. Bonjour Florence.
Oui, bonjour à tout le monde.
Florence. Qu'est-ce que vous en dites, Florence? Est-ce qu'on est trop sollicité par le smartphone? Est-ce que ça parasite nos journées de travail finalement?
On le veut bien, mais oui, on est complètement parasité, ça c'est sûr. Je disais justement à la personne au standard, Nicolas, je crois, c'est ça?
Oui, c'est possible. Oui. Il y a Alexandre ou Hubert ou
Roger.
Allez-y.
Et du coup, en fait, moi, ce qui m'a sauvé finalement, c'est mon mari m'a offert un bracelet connecté.
Ah oui.
Du coup, parce que moi, j'ai deux téléphones dans la poche tout le temps, je suis à domicile.
Vous multipliez les emmerdes.
Ça, c'est pour savoir où vous êtes, hein.
C'est ça, j'ai deux téléphones, je suis aide à domicile, du coup j'ai le téléphone du travail où je pointe et le mien. Et c'est vrai que comme ça, au moins, d'un coup d'œil, je regarde, j'ai pas besoin de sortir le téléphone de la poche et je perds moins de temps.
Et votre mari, pourquoi il vous a offert ce bracelet?
Au départ, c'était plus pour avoir de l'heure et puis surtout compter les pas.
Ah oui,
Et finalement, ça vous aide à décrocher ou au contraire à être encore plus connecté?
Mais non, parce que du coup, comme j'ai un profil un peu trouble de l'attention, un peu TDAH, et c'est vrai que je regarde d'un coup d'œil, j'ai pas besoin de, c'est pas important, je continue.
D'accord. Ouais. Moi, j'ai un élément particulier, j'ai un portable de petite taille, qui est de grande performance, mais pour pouvoir l'avoir sur soi aisément pour cette notion de connexion.
Ça n'a rien à voir, mais
toi aussi, t'as une petite taille
et une grande performance.
J'ai un Samsung, c'est normal.
Parce que Emmanuel nous dit qu'on peut avoir une petite taille et être performant. Mais...
Ouais, allez. On va
dire. Moi, je voulais juste saluer. Rien à voir avec le ministre des Affaires étrangères, John Christmas Big Dick.
On a mis une petite consultation ou pas? Est-ce qu'on est. Oui? Non? Oui? Oui. Alors, est-ce que ce portable nous rend moins productif? Oui?
C'est serré.
On est quasiment à 50-50.
C'est 50-50.
Ah oui. Ah oui, parce que c'est à la fois l'outil de travail et à la fois les abus.
Il y a beaucoup d'abus.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Le meilleur des grandes gueules.
Ça, c'est du basque. Et oui, parce qu'il faut faire la différence entre les langues régionales et les accents régionaux, c'est-à-dire ton accent du coin où tu as grandi. Par exemple, c'est une étude qui a été réalisée auprès de 1500 personnes et à plus de 63%, les gens interrogés notamment ont le sentiment qu'aujourd'hui les accents de leur région sont en train de disparaître. Et c'est très prégnant du côté de la Corse, de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, des Pays de Loire, de la Bretagne et du Grand Est, notamment. Alors, est-ce que c'est regrettable? À qui la faute? Pourquoi est-ce que les accents, hein, pas les langues, pourquoi est-ce que les accents régionaux sont en train de s'en aller? Monsieur le Bourguignon, monsieur Didier Giraud, alors.
Écoute, j'ai pas tous les tenants, les aboutissants. Ce que j'en vois, ce que j'en comprends, c'est que dans le monde aseptisé dans lequel on vit, dans le monde où tout le monde doit se ressembler, où il n'y a pas une oreille qui dépasse, et dans le monde discriminant où t'es moqué quand tu ressembles pas les autres, un accent, aujourd'hui tel que je le conçois, c'est soit une revendication, soit une culpabilité, quoi. À un moment donné, tu peux pas avoir naturellement ton accent dès que tu sors de ton milieu sans que ça prête à rigolade ou à emmerdement, quoi. Et que si tu veux conserver ton accent, t'en fais une revendication. Et je pense qu'il y a des terroirs en France qui sont très très forts là-dessus. Mais si tu l'assumes pas, ton accent, à un moment donné, ça devient une culpabilité et tu l'abandonnes, quoi. Après, je pense qu'un accent, il se développe aussi et il vit si t'es entouré de gens qui parlent avec le même accent que toi, quoi. Tu prends un gars comme Antoine Dierce et tu le mets dans un milieu parisien, il a quasiment plus d'accent, quoi. Mm-hmm. Je pense que Antoine, quand ça. Il a un petit accent du Nord, un peu, il a quelques intonations, mais tu le fais vivre.
Jérôme Marty, là, chez nous, il a bien l'accent de Haute-Garonne,
c'est
Jérôme.
C'est un accent toulousain, l'accent du Sud, il est quand même dur à passer, quoi. Il faut plusieurs années de vie à Paris pour passer l'accent du Sud-Ouest. Mais je pense que l'accent, il se développe si t'es au contact du même accent, quand même.
Et Barbara Lefebvre, pourquoi ça disparaît, les accents régionaux?
Je rejoins Didier et je le complète parce qu'il dit... Tu viens à Paris. Donc oui, c'est aussi les changements de mode de vie, la métropolisation, pas que Paris, la métropolisation, oui. Le fait d'avoir quitté massivement son espace,
son terroir,
soit son village, soit même sa petite ville moyenne où tu avais quand même une communauté de ville. Par exemple, Bruno, il nous parle souvent de Vierzon ou Louis nous parle de Châteauroux. C'est même s'il n'y a pas d'accent à Vierzon, mais
si,
il pourrait y en avoir un. Et tu vivais quand même avec des camarades de classe, avec des copains, avec qui tu allais grandir toute ta jeunesse. Puis même peut-être tu resterais vivre sur Vierzon. Aujourd'hui, non, tu vas à la métropole. La métropolisation, c'est l'uniformisation. La métropolisation, c'est les formes de vie de bientôt 7 habitants de la Terre sur 10. Ça ne concerne pas que la France, ça concerne le monde entier. On va avoir d'ici une dizaine d'années 7 humains sur 10 qui vivra à la ville et pas la petite ville, la métropole, c'est-à-dire l'espace par principe où c'est l'uniformisation des modes de vie et où c'est l'uniformisation culturelle. Et cette uniformisation culturelle, elle se fait sur le modèle de la culture qui est là sur les réseaux, etc., qui est massivement la culture américaine, mais pas que. Une culture aussi française qui va être agglomérée, acculturée à la culture américaine. Mais dans le même temps, tu vas avoir le développement de, d'autres genres d'accents. Moi, je vois bien l'élocution des jeunes aujourd'hui, que ce soit, alors on va dire qu'une certaine façon de parler, qui peut être un petit peu une sorte d'accent de banlieue, qui va être adopté aussi par des gamins de centre-ville et qui vont parler avec che, la façon de dire les R, de dire le che, les trucs comme ça. C'est aussi une forme d'accent.
C'est accentué aussi par le phrasé, notamment, moi je le vois...
Le phrasé dans la musique, aussi, du rap, de la chanson. Ouais. Donc, il y a peut-être plus les accents régionaux, mais il y a d'autres façons de parler, d'autres élocutions qui sont le reflet de ça.
Donc, on est face à une transformation inexorable, quoi, en fait.
Oui, mais c'est triste parce que ça veut dire l'uniformité culturelle.
Bah ouais, alors ça écrase la culture.
Et
quoi.
C'est ça qui est fascinant, c'est que tous ces gens qui par ailleurs sont complètement béats devant la diversité culturelle, mais par ailleurs, ça les dérange pas que la diversité culturelle française à travers les accents régionaux disparaisse. Parce que par contre, pour qu'on ait la diversité culturelle du salmigondi qui peut sortir de la bouche de certains, alors là, par contre, c'est merveilleux.
Mais même la gouaille du titi parisien, tu l'écoutes plus dans la rue.
Il y en a plus beaucoup. On a Roland qui veut intervenir tout de suite avant de te donner la parole, Bruno, parce que Roland, il nous appelle de Haute-Garonne. Bonjour, Roland.
Oui, bonjour.
Bonjour. Ah ben là, on a de l'accent là en vous entendant, mon cher Roland. Qu'est-ce que vous en pensez de cette disparition des accents régionaux? On doit le regretter ou pas alors?
Disons que c'est très regrettable. Moi, je suis Toulousain. Je suis fier de mon accent. C'est mon accent, c'est mon identité. Et le perdre, c'est un petit peu perdre de mon identité. Mmh. Voilà. C'est un petit peu mon ressenti. Alors, ce qu'il y a, ce que j'ai expliqué, c'est que souvent, désolé, hein, mais il faudrait qu'on parle tous à la parisienne. Hein, voilà, que ça soit, qu'on parle tous de la même façon, avec le même accent, pour qu'on nous comprenne. Parce que des fois, il y en a, ils nous disent, j'ai fait une fois une présentation, il a fallu que je... Presque je prenne un accent parisien pour que...
Mais vous avez raison, Roland, parce que notamment voilà. dans les médias, dans les radios nationales, quand on arrivait et qu'on avait un accent, c'est notamment Jean-Michel Apathy qui le racontait, on disait, il fallait un ton neutre pour présenter les informations ou autre. Il fallait une uniformisation du ton et de la voix. Et on laissait les accents aux radios locales ou aux informations locales ou, aux stations régionales. Mais pour les grands médias et pour arriver notamment dans des grands cabinets ou ensuite prendre la parole, il fallait gommer son accent, effectivement. Il fallait être neutre, entre guillemets.
Ça, c'est le passé, ça. Là.
Oui, c'est le passé.
Et aujourd'hui, on en est à la phase...
Aujourd'hui, t'as pas beaucoup d'accent dans les médias.
On en est à la phase aujourd'hui, si quelqu'un comme Roland veut faire exister son... C'est ce que je disais. C'est soit une revendication, soit une culpabilité. Mais
regarde Jean Castex, c'est pas naturel. Comme il a été raillé quand il est devenu premier ministre.
Et puis Jean Lassalle en a fait une revendication, tu vois. Il y a un moment donné, ton accent, c'est soit tu t'en sers d'un porte-drapeau, soit t'en as honte et tu le gommes.
Sans parler de nos compatriotes d'outre-mer, par exemple, des journalistes antillais, s'ils veulent venir travailler en métropole, il faut qu'ils gomment leur accent antillais. Et moi, j'ai vu des reportages, par exemple, où on sous-titrait, c'est-à-dire qu'on interviewait des antillais et on sous-titrait comme si on n'était pas capable de comprendre parce que quand ils parlent, il y a un reste d'accent de la langue créole. Moi, quand je vois, par exemple, Harry Roselmack, il a pas du tout... Il a peut-être pas vécu longtemps aux Antilles ou pas du tout. Mais quand j'entends Christine Kelly, j'entends que Christine Kelly, elle a gardé un peu son accent antillais. Et moi, je suis contente quand j'entends Christine Kelly d'entendre un peu l'accent antillais. Parce que je trouve que c'est plus joli que des antillais qui arrivent en France et qui, en métropole, et qui gomment leur accent antillais. Et je trouve que ça, c'est très dommage. Il faut aussi penser à l'accent de nos outre-mer.
Merci Roland d'avoir été avec nous de Haute-Garonne. Bruno Poncet, il y a un accent à Vierzon?
Ouais, il y a un accent, il y a une façon de parler. Bah, je sais pas, moi, je l'ai plus. Parce que quand je suis monté à Paris à 13 ans et demi à rejoindre ma mère, en fait, je suis resté 4 ans à Paris, donc évidemment, il s'est effacé au fur et à mesure. Et quand je suis revenu à Vierzon, les mecs, ils me disaient que j'avais un accent de parisien. Et là, je te dis pas un peu l'insulte, en fait. Hein. C'était un peu l'insulte suprême. Mais en fin de compte, aujourd'hui, particulièrement, comme disait Barbara, tu bouges. Donc forcément, si tu bouges, bah, tu vas effacer ton accent. Et puis surtout, bah, à un moment donné, tu te rends compte de moins en moins de personnes qui le gardent. Moi, j'ai mes copains d'enfance, quand je parle avec eux, il y en a très peu qui ont gardé du vocabulaire, des trucs que nos grands-parents disaient, quoi. Et en fait, en plus, moi, je suis fils d'un Aveyronnais, ma mère était parisienne, donc t'imagines le croisement, on est à Vierzon, croisement ouais, est un peu bizarre, tu vois.
Ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que tu pouvais très bien avoir ton accent de ta région ou de ta ville sans pour autant parler le patois. Mais si tu veux, c'est quand tu arrivais quelque part, tu vois, ah ben toi t'es de tel endroit parce qu'on reconnaissait ton accent, ton phrasé par exemple. Tu vois, dans le sud, tu peux faire une différence entre l'accent marseillais, l'accent ou varois et l'accent niçois. L'accent niçois, si tu veux, tu traînes un peu plus. Tu vois que l'accent marseillais qui
est endroit où il est encore très présent,
t'es plus patalachi, vous laissez les volets ouverts ou quoi. Tu vois, c'est à Nice, tu traînes plus qu'à Marseille vraiment où tu chiantes,
tu vois. Passer.
Donc tu pouvais arriver dans une ville ou dans une région en disant bah, vous êtes de tel endroit et ça on ça
savait dans la même région.
Moi j'aime l'accent corse parce que il te fout la trouille tout de suite.
Oui, mais tu vois,
j'adore.
En Corse, il paraît qu'il disparaît l'accent corse aussi.
J'espère que les jeunes corses qui nous entendent doivent apprendre davantage la langue corse déjà et continuer à parler avec cet accent corse qui impressionne et qui est tellement
puissant. Tu vois, regarde, puissant. Tu te souviens d'Aimé Jacquet? Aimé Jacquet avec son accent du Forez.
C'est un chameau.
Muscaton dans la Loire. Tu vois, c'était
déjà. C'est un chameau dans la Loire.
Gimmick. Les gars de la Loire, ils parlent encore comme ça.
Celle qui est la plus connue, c'est Mireille Mathieu qui t'explique que quand t'as venu d'Avignon, on fait monter à Paris. Bah, écoute, faut plus que tu parles avec ton accent. Alors elle qui avait du caractère, elle dit je vous emmerde, mais en fait, en fin de compte, on te le fait effacer. Mais la vie te le fait effacer. Puis à un moment donné, t'as aussi un peu honte. Moi, quand je suis arrivé à 14 ans à Paris avec mes espèces d'accrocher sur certains mots et tout, je me disais, enfin, tu vois, t'étais un peu regardé bizarrement et comment plus t'arrives.
Une culpabilité.
T'es un peu lourdeau, hein.
Mais même à l'Assemblée nationale, tu n'as plus beaucoup d'accent à l'Assemblée
nationale. Non, parce que quand ils ont tous fait 10 ans d'élan, après.
Regarde la salle, tout le monde peut
parler. La plupart sont parachutés.
Censé représenter les territoires, justement. Jean-Charles, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. De où alors, Jean-Charles?
De Provence, c'est chez un ami d'Arles.
D'Arles, des Bouches-du-Rhône. Alors, la disparition des. Je dis bien des accents, pas des langues, mais des accents, vous le constatez ou pas?
Oui, on le constate, bien sûr, tous les jours. Il suffit de se balader dans les rues d'Arles et ça parle pointu, on vous fait saigner les oreilles.
Hein. Ouais. Ça, c'est clair.
En fait, l'accent, c'est ni plus ni moins que le fossile de la langue originelle. Mm-hmm. D'accord. Donc, le pouvoir central a fait ce qu'il fallait pour exterminer les langues régionales, hein, au nom de la langue unique française, la République, la... je vous en passe, c'est des meilleurs.
C'est la centralisation parisienne.
Ouais. Exactement. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est on fait en sorte que les accents disparaissent. Pourquoi? Parce que, toujours pareil, une nation unique, donc ils vont tous parler pareil, tous avoir le même accent, et quand on écoute la radio ou on regarde la télé, ben on s'en rend compte. Hein. Et c'est quelque chose de délibéré.
Ah, vous pensez que c'est délibéré, vous?
Mais tout à fait. Je vous donne un petit exemple. Je connais une jeune fille qui a passé son... qui a fait Sciences Po, qui passe l'ENA, qui réussit son concours brillamment. À la fin du concours, la seule remarque qu'on y a fait, c'est « Mademoiselle, avec l'accent que vous avez, vous ne ferez jamais rien de votre vie. »
Bah, sympa.
Là, récemment?
Il y a à peu près 5 ans, oui. Et ça, c'est un nom, ça s'appelle de la glottophobie.
D'accord. Ah oui, c'est...
Ça a été...
Du racisme régional.
Non, c'est de la discrimination par l'accent.
Par l'accent, ouais.
D'accord. Alors, et ça, par l'accent, donc par l'origine. Et on reste dans un entre-soi, etc.
Oui, il y a quand même des régions qui le gardent. Parce que moi, la semaine dernière, j'étais à Cannes, donc il y avait des gamins qui avaient un peu l'accent. Mais surtout, il y avait un gamin d'Avignon qui avait 20 piges. Ben, je peux garantir qu'il avait vraiment l'accent. Et en fait, ça se maintient. Il y a certains accents. On parlait tout à l'heure de la région de Toulouse, le sud-ouest. Ouais. Et puis, ben, chez vous, en fait, dans votre région.
Tout
à vous,
en haut de la Franche-Comté. Ah oui, les Franc-Comtois, le Haut-Doubs, ils ont un accent très
prononcé. Mais qui vient des Vosges, tu sais qui vient des Vosges.
Il y a des Vosges.
Et vous parlez du pôle Nord là-haut.
Ouais, c'est vrai que pour vous, c'est l'étranger presque.
Mais, Jean-Charles, je vous remercie d'avoir été avec nous.
On a été dirigé et la France. Remercier quand même ce grand empereur qui était Napoléon. Napoléon, il a appris le français seulement à l'âge de 9 ans. Jusqu'à l'âge de 9 ans, Napoléon, il parlait uniquement corse.
Il a beaucoup été raillé.
Et il a été raillé quand
il était à Brienne-le-Château, voilà. Ils se sont beaucoup moqués de lui.
Il disait Napoléoné et on se foutait de lui. Donc il avait un peu gommé son accent, mais les historiens eux-mêmes, certains disent qu'il avait un léger accent corse, d'autres qui disent non, il avait un accent corse prononcé. Mais l'empereur a gardé cette pointe d'accent Et je pense que c'est important de se rappeler que notre grand empereur Napoléon avait cet accent corse que n'avait plus ensuite son neveu Napoléon III. Mais c'est important parce que voilà, Napoléon, on connaît pas sa voix, mais peut-être que si on l'entendait aujourd'hui, on entendrait.
Il faudrait sous-titrer peut-être.
Les accents régionaux en voie de disparition. Merci à Jean-Charles. Est-ce que vous trouvez ça regrettable? Oui ou non? On en a discuté quelques minutes. Oui, c'est dommage, à plus de 84%.
RMC, 9h midi. Le meilleur des grandes gueules.